wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son à ce soir par Kevin Boisson. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Comeau, Mathilde Wagman et Olivier Joyard pour parler ensemble de The Marvelous Mrs. Maisel d'Amy Sherman-Palladino. À voir sur Amazon Prime Video. Hippocrate de Tim Tomalilti sur Canal+. Escapade d'Anemora de Michael Tucklin et Brett Johnson également sur Canal+. Et puis il y aura un coup de cœur de Lucille Comeau pour Narcos Mexico qu'on peut voir sur Netflix. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Franchir la nuit de Rachim Oumrandan. Ce sera mardi 18 décembre à 20h30 dans le cadre du festival Tous Humains à Chaillot, le théâtre national de la danse à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec The Marvelous Mrs. Maisel. Dans la saison 2 est en ligne sur Amazon depuis le 5 décembre. Amy Sherman-Palladino, créatrice de Gilmore Girls, a su merveilleusement se renouveler en inventant Miriam Midge Maisel, mère au foyer apparemment comblé dans le New York de la fin des années 50. Mais Midge est devenue, de façon quand même un peu inattendue, l'étoile montante du stand-up au cours de la saison 1. Bien dire qu'on mourait d'envie de retrouver Rachel Brosnahan et tout le cast parfait de cette série Marvelous.
One year ago, my old life ended and my new life began.
I'm the greatest star.
I want to be successful.
I am by far.
But I haven't told my friends or my parents.
But no one knows it.
Except my ex. He knows. And you. We're partners. You're great at what you do.
Alone, I am a spittoon. With you, I'm a somebody.
The pip with pizzazz. Who is
ladies and gentlemen, boys and girls.
And jazz. Who is as glamorous
as... Let's go!
Who's an American beauty rose with an American...
You're not late so often.
No!
Just getting around. I mean, not getting around.
Marry somebody and everything will be fine.
Do you think you can go back to making jello molds?
I don't know. I make a hell of a jello mold. We're gonna die in this tunnel.
Good. Something to look forward to.
We got a girl comic coming up. Don't get too excited, fellas. She keeps her clothes on.
I want to be big. The biggest thing out there.
The Marvelous Mrs. Maisel, saison 2, disponible sur Amazon Prime Video. Si Mathilde Wagman commençait à nous parler de cette Midge.
Bien volontiers. Alors moi, j'avais adoré la première saison. J'avais été très séduite par cet objet assez étonnant quand même, qui faisait se rencontrer des esthétiques très différentes. D'un côté, quelque chose qui relève de la comédie musicale façon Broadway. De l'autre, toute une tradition, d'une certaine manière, de séries mettant en scène des comédiens de stand-up comedy. Depuis Seinfeld, Louis, en passant par récemment I'm Dying Up Here, donc c'est presque un sous-genre de la série maintenant. Voilà, avec également toute l'esthétique, tous les décors du New York des années 60, qui évidemment faisait aussi penser à Mad Men. Tout ça dans un mélange assez étonnant et qui créait un objet singulier qui moi m'avait beaucoup séduit. Et là, dans cette deuxième saison, bizarrement, j'ai pas retrouvé mon enthousiasme. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Je crois que c'est parce que la première saison, c'était quand même le récit d'une émancipation. C'est-à-dire qu'à travers la découverte de ce goût et de ce talent assez inné, exceptionnel pour le stand-up, le personnage de Midge réalisait qu'elle pouvait avoir un destin qui ne se réduisait pas à celui de mère de famille au foyer, dans un milieu qui est celui de la bourgeoisie new-yorkaise de l'Upper West Side. Et là, on n'a pas ce fil narratif-là. D'une certaine façon, on perd de vue le personnage de Midge assez rapidement, et moi ça m'a beaucoup manqué. La série multiplie en fait des intrigues qui sont en fait des intrigues secondaires, qui sont liées en tout cas aux personnages secondaires. Il y a l'échappée de la mère de Midge à Paris dans les premiers épisodes, l'organisation du mariage d'une amie de Midge, le parcours de Joël, son mari, ex-mari bientôt peut-être, qui décide de travailler avec ses parents, etc. Certaines sont intéressantes, d'autres moins, mais dans tout ça, on perd complètement de vue le personnage principal et cet enjeu qui pour moi faisait toute la saveur de la série. En outre, les sous-intrigues, j'ai dit certaines sont réussies, d'autres moins, quand même globalement je trouve qu'elles sont moins réussies. En particulier toute cette ouverture, donc ces deux épisodes à Paris. Alors d'abord on se dit, ah bah youpi, quelle bonne idée de se déplacer à Paris pour tout le côté esthétique de la comédie musicale. C'est plutôt une très bonne idée, on a envie de voir ce que les auteurs vont faire du décor parisien. Sauf que la protagoniste principale de toute cette intrigue là, c'est la mère de Midge. On explore la question de son émancipation à elle. Or, toute cette partie-là, moi, me laisse assez indifférente. C'est un personnage qui est beaucoup moins réussi que celui de Midge, je trouve, celui de la mère. Et du coup, je suis complètement décontenancée. De même, plus tard, plusieurs épisodes se déroulent dans l'univers d'un centre de vacances des Catskills. Le décor en lui-même est assez drôle, hein. C'est un centre de vacances pour familles juives huppées, il y a des tas de choses qui sont rigolotes, burlesques, mais n'empêche que nous manque notre Midge et les scènes de comédie.
Je reviens vers vous, Mathilde. Olivier Joyard, regarde sur cette Mrs. Maisel.
C'est vrai ce que dit Mathilde sur le manque d'enjeux, et en même temps, j'ai envie de dire que c'était presque déjà le cas de la première saison, ce qui n'est pas forcément... un énorme problème à mes yeux. J'ai l'impression que l'enjeu de Marvelous Mrs. Maisel, c'est la vitesse, c'est de montrer une femme en action, et pas qu'une femme d'ailleurs, des personnages autour d'elle. C'est, en plus de la comédie musicale, moi ce qui m'accroche beaucoup, c'est le souvenir des comédies screwball des années 30, enfin, disons Lou Beach pour aller vite, mais il y en a plein, même Hawks en a fait, voilà, Macaré. C'est quand même clairement le ce qui l'âme de ce que Amy Sherman Palladino essaie de transmettre, c'est-à-dire une idée de la fiction qui serait avancer vite de manière joyeuse, toucher à des thèmes, effectivement, accrocher des personnages, mais surtout qui nous échappe dès qu'on a compris ce qu'il faisait exactement, quoi. Et donc j'aime assez, moi, cette structuration-là, cette façon de structurer. C'est vraiment quelque chose qui m'est personnel, disons. J'ai beaucoup regardé et je retrouve cette vitesse-là. Moi, je ne l'avais pas entendue depuis La Maison Blanche, disons, dans une série. Or, Sorkin est très influencé par Bennett, qui était un des scénaristes phares des années 30. Et donc moi, je suis un peu en famille, je dirais. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui par contre, effectivement, je comprends que ça puisse laisser totalement indifférent. C'est-à-dire, c'est le problème de cette série, et c'est ce qui m'a étonné quand j'ai vu le succès qu'elle a eu l'année dernière. C'est-à-dire qu'elle a eu, je crois qu'elle a enchaîné Golden Globes et Emmy Awards pour une première saison sur Amazon, enfin quelque chose qui était. Alors il y a l'aspect aussi émancipation féminine, l'émancipation du personnage. Là, j'aimerais que ça aille plus loin. J'aimerais que ça aille plus loin dans le langage, dans ce qu'elle fait en stand-up. Il y a une scène à la toute fin de la saison 2 où elle se fait virer de la scène parce qu'elle parle de vagin. Et on lui dit, tu peux pas dire ça, c'est des trucs de filles.
Femme enceinte. Parce qu'elle parle de grossesse.
Voilà, elle parle de grossesse. Exactement. Et effectivement, mais je crois qu'elle prononce le mot. Il y a quelque chose qui choque, elle se fait. Et ça, c'est une vraie, vraie problématique pour le coup, qui a traversé toutes les séries, même récentes. Même Shonda Rhimes on n'avait pas le droit de dire vagin, donc elle a inventé un autre mot. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu effleurées pour le coup, je trouve.
Lucille Gomeau.
Oui, alors
depuis
moi,
le temps que vous me parlez de Mrs. Maisel voilà, au bureau, il faut quand même le dire.
C'est parce que vraiment, je l'aime. Donc, sur justement le substrat un peu pseudo-féministe de ce que veut dire la série, je suis assez critique aussi depuis d'ailleurs le début. Je trouve que c'est nettement moins intéressant toute cette trajectoire d'émancipation féminine, cette manière, parce que donc Mrs. Maisel, son truc, c'est que quand ça va mal, à partir du moment où son mariage s'effondre, elle utilise cet effondrement et sa condition de femme au foyer des années 50. Il faut quand même dire qu'au début de la saison 1, Mrs. Maisel, quand elle va se coucher, elle se relève pour se démaquiller et se décoiffer, parce que voilà, et quand elle met son réveil une heure avant le réveil de son mari.
Alors elle laisse le store un tout petit peu levé pour que le soleil la réveille sans qu'elle réveille. Voilà,
pour que les hommes croient qu'elle est tout le temps comme ça. Ouais. Bon, donc elle utilise énormément ce matériau, comme ils disent, material sur scène. Ça m'intéresse en effet assez peu. Du coup, je regrette moins l'espèce de trajectoire d'émancipation féminine qui m'intéressait déjà assez peu dans la saison 1. En revanche, je pense que la série est quand même profondément intéressante de ce point de vue, en effet parce que, comme vous le disiez Olivier, cette héroïne, elle a vraiment quelque chose de ces personnages des années de la screwball comédie, de la comédie sophistiquée. Et d'ailleurs, Mrs. Maisel continue de fonctionner un petit peu dans la saison 2, et c'est pour ça que là, je ne suis pas d'accord avec vous Mathilde, ça continue à m'intéresser, comme une comédie de remariage. Bon, je ne sais pas exactement comment ça va se passer avec son mari, mais en tout cas, ça m'intéresse parce que c'est une forme cinématographique assez identifiée et que je trouve adaptée en série est intéressante de toute façon. Après, il y a quelque chose qui contredit ça, c'est que pour moi, Mrs. Maisel, il y a un côté extrêmement rassurant, très, très doudou, lié au fait que juste je la regarde, elle, cette actrice-là qui est superbe, je regarde les autres personnages qui le sont tout autant, et je regarde ses habits, la manière dont elle met ses chapeaux, etc. Donc là, ça contrevient totalement au manifeste potentiellement féministe de la série, parce que ce qu'on aime voir, de fait, c'est quand même beaucoup ça. Et ça me pose un peu des questions sur moi-même. Et par ailleurs, c'est un monde, Mrs. Maisel, qui est totalement clos. Et c'est assez frappant dans la saison 2. Parce qu'il est fait allusion, parfois, de temps en temps, à ce qu'est l'histoire, en dehors de cette espèce de confiserie, en fait, qu'est Mrs. Maisel. Donc le canal de Suez, Kennedy, la guerre froide, qui commence à vraiment se durcir à ce moment-là. On est en 59. Voilà, tout à fait. Et il y a une scène qui, à mon avis, de ce point de vue, est assez étonnante. C'est quand, à un moment donné, elle doit se rendre à New York en urgence. Elle est dans les Catskills en vacances. Et elle est accompagnée par un homme un peu sérieux. Et du coup, il écoute les nouvelles à la radio. Et là, elle s'ennuie, donc elle s'endort. Il y a une petite musique d'ascenseur derrière qui fait mine de la divertir de ces nouvelles un peu dramatiques. Et puis, la radio s'éteint, ça ne fonctionne plus. Et elle se met, elle, comme une espèce de stand-up woman qu'elle est devenue, à imiter le présentateur radio et à faire de toute l'histoire, de tout le contexte politique international, une vaste blague. Et je trouve que c'est vraiment ça, Mrs. Maisel, c'est une sorte d'enclos totalement fermé, très brillant. Parce que c'est vraiment très brillant, en effet. Du point de vue de la réalisation, moi, je suis toujours assez impressionnée, aussi dans la saison 2, parce que la caméra fait de ces espaces, de ces personnages. En effet, c'est très classique, mais ça fait du bien de le voir. C'est vraiment un enclos totalement fermé.
Oui, je vous rejoins sur la magnificence des costumes, de la mise en scène, des comédiens dont j'aimerais parler. Mais alors, moi, j'aime infiniment Mrs. Maisel, mais moi, je le vois comme un prequel de Seinfeld, en fait, véritablement, parce que ça pourrait être la tante, sans doute, on l'apprendra peut-être dans les saisons à venir, de Jerry Seinfeld. Le père de Midge ressemble à Kramer d'une façon époustouflante, presque même physiquement. C'est Susie, l'impresario, ça pourrait être une Hélène qui aurait fait une autre carrière. J'imagine que George va arriver dans la saison 3 de Mrs. Maisel, je ne désespère pas. Mais là où c'est par contre complètement différent, c'est que si Seinfeld, le principe c'est de faire une série sur rien, voire un épisode fameux, là ça va à toute vitesse, et surtout dans cette saison 2. Alors, il se passe beaucoup trop de choses pour vous, Mathilde Wagman, mais moi, j'aime bien que ça pulse énormément. Enfin, si on regarde, c'est seulement 10 épisodes. Il y a une quantité d'actions, de phénomènes qui se produisent, qui sont assez, assez stupéfiantes. Alors, bon, pour revenir à Seinfeld, il y a bien sûr cette profession de comédien stand-up, mais il y a aussi New York, qui est très important. Et puis, il y a aussi tout ce background juif, enfin, qui est d'ailleurs ici plutôt au premier plan. Il y a cette science de la situation, des dialogues. Enfin, moi, j'adhère absolument. Et ces vacances dans le village, enfin ce village vacances juif des Catskills, c'est
for
quand même
happy Israelites.
Non, mais c'est absolument extraordinaire. Et donc du coup, j'ai regardé un peu. Moi, je connaissais pas ça, mais c'est la Borscht Belt, la ceinture du Borscht. C'est dans les hôtels des Catskills. Catskills, j'arrive pas à le dire.
Catskills.
Voilà, merci. Qu'on commençait Jerry Lewis, Mel Brooks, et puis beaucoup d'autres. Donc il y a vraiment une chose que j'ai découverte grâce à cette série. Et puis une audace dont on n'a quand même pas encore parlé ici, j'aimerais avoir votre sentiment parce que je pense que c'est vraiment, c'est sur le fil, c'est le personnage de Lenny Bruce. Parce que dans cette série totalement fictive, il y a quand même le vrai. Il y a Lenny Bruce qui était quand même immense, alors vedette, mais en même temps qui passait la moitié de son temps à se faire arrêter pour obscénité proférée sur scène. Et je trouve que c'est un personnage que je trouve vraiment extrêmement touchant, très tendre, en même temps évidemment corrosif, qui est présent dans la série, qui est un peu celui qui va aider ou pousser Mrs. Maisel, et je trouve ça assez gonflé d'avoir fait ça, y compris dans le fait de rejouer, là, c'est dans la saison 2, un show qu'on peut voir d'ailleurs sur les plateformes vidéo en ligne gratuite, le show de Tony Allen en avril 59, avec cette chanson que chantait Lenny Bruce à la fin, où il raconte ça. La solitude du stand-upper de fond, l'utilisation de Lenny Bruce, c'est Olivier Joya.
Alors moi, à la fois, je trouve ça passionnant parce que je connais sans connaître, c'est quand même très culture américaine.
Oui, c'est très américain. Mais il y a eu plusieurs films qui ont été consacrés à lui.
Du coup, moi, ça m'intéresse, mais ça me questionne quand même sur le traitement qu'elle fait du personnage principal, que Amy Sherman-Palladino fait de Midge, parce que donc elle a besoin en fait d'un référent. Et au fond, il fait ce que moi j'aimerais la voir faire, elle, Lenny Bruce. J'aimerais que Lenny Bruce, ce soit elle, d'un certain point de vue.
Ça va peut-être venir.
Qu'elle aille plus loin, que ça aille plus vite. Là, pour le coup, s'il y a un manque de vitesse dans la série, c'est peut-être sur son évolution, elle, en tant qu'artiste, tout simplement, que moi, je perçois de manière plus... Elle subit un petit peu les événements tout en étant toujours debout. Et c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on n'arrive jamais à savoir exactement ce qui relève de... simplement qu'elle est arrivée là comme ça un petit peu par hasard, de quel désir ça vient chez elle. Donc ça rend le personnage un peu mystérieux de savoir ce qu'elle a envie de raconter sur scène, qui est toujours, alors évidemment elle parle de grossesse et de choses comme ça, et ça lui coûte cher, enfin en tout cas ça lui coûte quelque chose. Mais je sais quand même qu'historiquement il y avait Joan Rivers qui commençait à cette époque là elle est morte il y a quelques années, elle était dans Louis comme elle a fini en faisant la fashion police, je crois, sur E-Entertainment. C'est les bas-fonds géniaux de la télé américaine. Mais c'était une comédienne de stand-up, l'une des premières femmes aux États-Unis à faire ça de manière un peu piquante, dure. C'était plus tard que Lucille Ball, qui, elle, a fait beaucoup de sitcoms. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui... Voilà, pour le coup, sur cette histoire de Lenny Bruce, j'aurais bien aimé que ce soit elle.
Mathilde Wagman.
Alors moi, je vous rejoins tout à fait sur la qualité de ce personnage. Enfin, vraiment, je trouve l'un des personnages les plus émouvants de la première saison, mais que précisément dans cette deuxième saison, on voit assez peu. Il apparaît, il a une apparition très rapide.
Mais il est important toujours.
C'est vrai, mais je le regrette malgré tout. Au même titre,
ce comédien est aussi formidable. Midge,
absolument, extrêmement séduisant. Ah, oui. Il y a quelque chose aussi d'un jeu de séduction entre eux qui est très intéressant. Enfin voilà, mais voilà, moi, il me manque autant. Que me manquent, malgré tout, les scènes de stand-up, quand même, qui se font très rares et qui étaient quand même l'un des ressorts du cœur de la première saison, avec cette chose que j'ai mentionnée, mais que je n'ai pas développée, qui est que le talent que Midge développe pour la comédie est un talent qui relève d'un super pouvoir. Mmh. C'est absolument invraisemblable. Mmh. Elle est douée de manière tout à fait innée.
Personne n'improvise comme
voilà,
ça, normalement.
Voilà, c'est pas possible, mais c'est génial. Ça a le même rôle que les super pouvoirs dans les films de super-héros. Et ça, c'est complètement, également perdu de vue dans cette saison-là.
Oui, mais il y a une professionnalisation, Mathilde. Je crois que c'est dans la saison 2 qu'il y a cette séquence où on voit comment une blague s'améliore de soir en soir. Est-ce que c'est bien avec un montage très rapide? C'est peut-être dans la saison 1.
Non, c'est dans la saison 1.
Bon,
on la voit progresser là.
Moi, j'ai vu les deux à la suite, alors, oui.
Non, là, on la voit pour la première fois sur scène à Paris, dans une scène où, en plus, elle se fait traduire, et c'est très maladroit, et c'est pas réussi. Plus tard, il y a une scène où elle fait...
Je ne dévoile rien. Je ne dévoile ce qui va se passer dans les quatre skills.
Mais ces scènes-là sont bien moins réussies que dans la première saison, et pour moi, c'est quand même le signe d'un vrai problème. En revanche, je vous rejoins sur la virtuosité et la joie, la rapidité effectivement de la mise en scène, notamment dans les séquences d'ouverture qui sont vraiment incroyable. Des petits bijoux chorégraphiques et extrêmement plaisants, et encore plus réussis pour le coup que dans la première saison.
Ah oui, le premier épisode de la saison 2, c'est une ouverture vraiment virtuose. Lucille Como.
Oui, il y a une artificialité qui s'assume de manière assez brillante.
Total.
Enfin, moi, je pense juste à un motif qui revient, parce que c'est la saison 2 exhibe un peu les motifs de l'artificialité de la première. C'est-à-dire que, par exemple, Mrs. Maisel, elle a des enfants. Dans la saison 1, on se disait, qu'est-ce qu'elle en fait en fait? Dans la saison 2, c'est carrément mis en scène, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on oublie le bébé. Ah mince, oui, on a fermé la porte, mais il n'y a personne pour garder le bébé à l'intérieur. Ou il est dans la voiture, il y a une réplique assez mythique quand ils arrivent aux Catskills, du père qui dit au jeune homme qui est censé les aider, enfin au groom quoi, il lui dit allez chercher le bébé dans la voiture et la serpillière, enfin c'est vraiment typiquement ce genre de réplique qui montre à quel point on est dans un film, j'allais dire une série de genre, et que le genre est assumé. Moi j'ai beaucoup pensé aussi aux Marx Brothers, j'avais pas du tout pensé dans la première saison, mais là dans cette saison 2, toutes les scènes en effet très chorégraphiées d'ouverture dans le grand magasin me font beaucoup penser aux Marx Brothers, et ça me réjouit beaucoup.
Bon, qu'est-ce qu'il faudrait alors pour la saison 3, le vœu de Mathilde Wagman, pour qu'il faut recentrer sur Midge?
Ouais, il faut qu'on la retrouve, parce que moi aussi, je l'aime très profondément,
et elle me manque
beaucoup.
Bon, Olivier, Joya, un conseil
Moi, j'aimerais qu'elle aille plus loin dans le, pour le coup, qu'on la voit vraiment souffrir un peu et devenir artiste, en fait.
Non.
Devenir une artiste.
Non, mais la souffrance
pour être joyeuse quand elle est mise en scène de faire. C'est-à-dire, je pense que il faudrait que Amy Sherman-Palladino assume l'autoportrait parce qu'elle explique qu'elle écrit de manière extrêmement spontanée. Elle balance des dialogues comme ça. Elle est très, elle est pas extrêmement structurée, en fait. Elle a des gens autour d'elle, dont son mari, notamment, qui est le co-showrunner de la série. Mais donc voilà, j'ai envie de voir plus qu'elle soit une artiste.
Lucille Comeau, votre vœu pour la suite de Mrs. Maisel, que ça continue longtemps.
J'en ai pas vraiment.
Tout va bien. Jusqu'ici, tout va
non,
bien.
Non, je vois les limites aussi, mais j'avoue, j'ai énormément de mal à avoir un recul à part des références cinématographiques que je détecte, évidemment. Je prends, quoi.
Bon, moi je prends aussi The Marvelous Mrs. Maisel d'Amy Sherman-Palladino à voir sur Amazon Prime Video. À suivre dans la dispute Hippocrate, Thomas Lilty, Escape à Danny Morad, Michael Tolkien et Brett Johnson et le coup de cœur de Lucille Comeau pour Narcos Mexico.
La dispute France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute série avec Hippocrate de Thomas Lilty qui reprend le titre de long métrage qu'il avait lui-même réalisé en 2014. C'était avec Vincent Lacoste et Reda Kateb. Ce duo masculin, on pourrait dire, succède dans la série à un duo féminin composé de Louise Bourgoin et Alice Belaïdi. Mais il faut ajouter Zachary Chassériau et Karim Lecloud. C'est donc un quatuor composé de trois internes et d'un médecin légiste qui doivent prendre en charge un service entier d'un hôpital public, les mandarins étant, eux, cloîtrés pour quarantaine suite au décès d'un patient causé par un virus inconnu.
C'est quoi le problème avec les médecins ?
Il y a un patient qui est mort. Un méningocoque, bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif.
T'es parti de l'appart ? Ils vous mettent où ?
Ils nous regroupent dans un hôtel près du Bourget, on sait pas encore combien de temps.
Il fallait que ça tombe le jour de la rentrée des internes, les deux autres, c'est leur premier stage.
Ça va, c'est pour 24 heures, t'inquiète pas, je le gère ton service.
T'as voulu aller dans le service de ton mec, t'assumes.
Si vous avez pas envie que ça sache, ça vous regarde.
Contention ! Allez !
Bah on a besoin d'aide.
Bonsoir, Orban Bachar.
Quand tu veux le laisser opérer un légiste ?
Non, mais attends, il est pas que légiste, Arben.
Agent pathogène non identifié. La mise à l'écart des médecins est prolongée jusqu'à nouvel.
38-9 ? T'as pas vu ça non plus ?
Non, je suis désolée.
Ouais, elle est relou, mais elle assure, t'inquiète.
C'est quoi cette TS que t'as accepté dans le service ? Être le fils de Wagner, ça te donne pas tous les droits. Hein.
T'appelles de Mazère, tu lui dis que c'est moi qui t'envoie.
Ok, merci maman.
On a une petite idée quand même de combien de temps ça va durer, cet isolement ?
Le temps qu'on sache de quoi le patient est mort.
Toi, t'as deux secteurs, c'est ça ?
Ouais.
Tu peux en prendre un des deux.
Alors, comme souvent le vendredi, nous dissertions en écoutant cette bande-annonce sur les curieuses musiques qui sont associées à ces bandes-annonces, des musiques qui sont généralement absentes des films ou des séries, ce qui est tout à fait le cas ici. Ça nous paraissait un peu curieux. Mais bon, parlons de la série Hippocrate de Thomas Lilty qu'on peut voir sur Canal+. Olivier Joyard.
Bah, c'est intéressant de rebondir sur cette musique parce que on dirait vraiment une série de bons sentiments messianiques, un peu comme on peut avoir l'image des médecins qui vont sauver le monde. Or, c'est pour moi, alors c'est un peu ma Mrs. Maisel Hippocrate, c'est que je l'aime un peu inconditionnellement.
Oui, en enlevant même des syllabes, c'est pour
à
dire.
À la fois, c'est ça, j'en perds mon français. C'est à la fois en vertu d'une sorte de fidélité à moi-même comme spectateur de série, c'est-à-dire que ce qui m'a ouvert aux séries modernes, c'est Urgence, il y a maintenant une vingtaine d'années. Et ça c'est vraiment... Disons que la première fois qu'en France, je me dis qu'on fait quelque chose qui peut se... Non pas qui fait la même chose qu'Urgence, parce que c'est impossible, c'est un monstre de 15 saisons et 23 épisodes par saison, mais qui peut être, disons, comparé, ou en tout cas venir après, sans problème particulier. Donc moi, j'ai vraiment été... Alors que je suis pas spécialement amateur du cinéma de Thomas Lilty, enfin, que je trouve être c'est le nouveau Wonder Boy du cinéma français, il fait des centaines de milliers d'entrées, il est quand même extrêmement... c'est quelqu'un qui réussit à peu près tout ce qu'il fait. Et alors, je ne déteste pas, mais simplement, ça m'intéresse peut-être pas plus que ça. Le film Hippocrate, par exemple, je le trouvais qu'il n'avait pas l'ampleur qu'à la série ici. Et donc, il a effectivement déplacé l'intrigue, c'est-à-dire qu'il en reste des bribes comme ça, mais il a quand même beaucoup féminisé. Et il a trouvé un prétexte de série qui est de dire, voilà, on va vous mettre tous ensemble dans un lieu clos, qui est donc cette histoire d'un virus, des gens qui sont mis en quarantaine. Donc, le service doit être assuré par des gens qui n'en ont pas, a priori, la compétence véritable, en tout cas pas l'habitude. Et donc, la série a commencé à infuser assez rapidement en moi, et je me suis dit tout de suite que je pouvais rester 10 ans devant sans aucun problème. Donc ça m'arrive jamais avec des séries françaises. Voilà,
peut-être un peu inquiétant, on va vous ausculter.
C'est ça, je suis extrêmement hypochondriaque, c'est extrêmement rassurant. Voir l'hôpital est toujours rassurant quand je n'y suis pas. Et donc, c'est forcément, ça me plaît beaucoup, mais surtout qu'il part d'archétypes, vraiment de clichés, c'est-à-dire le médecin qui va être malade, des choses, j'en dirais pas beaucoup plus, mais une relation qui reprend d'ailleurs du film entre, là, c'est une mère et son.
Une mère chef de service, voilà, et des urgences en l'occurrence, ça me concerne. Voilà, et son fils, qui est interne, lui.
Et donc, moi, je vois tout de suite une ampleur vraiment différente, et surtout une façon de se glisser de manière complètement naturelle, en fait, dans les cas médicaux, qui sont assez variés, plutôt, je dirais, assez durs, voire c'est là où la série n'est absolument pas une série messianique, c'est-à-dire que c'est pas des médecins qui réussissent tout ce qu'ils font, vraiment loin de là, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Oui. C'est comme ça. Et puis, on pourra en parler à la suite, mais elle touche à plein de petites choses. Et en fait, il y avait des références à Urgence et à House dans les 5 premières minutes de Hippocrate, le film. Mm-hmm. Là, il n'y en a pas d'aussi direct. Et en fait, c'est beaucoup plus proche et beaucoup plus honnête, en fait, dans l'hommage qui est rendu.
Lucille Gaumont sur Hippocrate.
Oui, moi j'aimais plutôt déjà bien les films de Thomas Lilti, je sais que je suis un peu
voilà
la
une chose
seule
qui nous sépare.
Dans l'attitude.
Il faut une info.
Je trouve que là, en effet, il y a quelque chose qui s'épanouit dans le format de la série, qui n'existait pas dans le film, et je pense que c'est un profond humanisme de peut-être de lui, en tout cas de ce qu'il veut raconter, qui s'articule assez bien avec, vous parliez de naturel, un naturalisme extrêmement bien réussi, ce qui n'est pas le cas de la plupart des séries et même des films français. Là, son ambition, elle est assez simple. Au départ, on la devine, en effet. C'est vraiment d'examiner un milieu et de l'examiner un peu sous toutes ces coutures et donc tous ces rapports de force, qu'ils soient sociaux, économiques, amicaux, amoureux même. C'est assez simplement donné dès le premier épisode. Et cette histoire de quarantaine est un artifice évidemment narratif qui apparaît extrêmement intelligent et qui le reste parce que nous, spectateurs, sommes aussi en quarantaine à l'hôpital puisque, en fait, il y a un extérieur. Hein, les personnages ont parfois un ami, un copain, une copine, des parents, mais tout l'extérieur vient à l'hôpital et ce n'est pas l'inverse qui se produit. Donc de ce point de vue, c'est déjà extrêmement intelligent, je crois, du point de vue de la forme. Après, moi, j'ai eu un petit peu peur du côté un peu panel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du côté à la fois des personnages principaux, on a quelque chose de très caractérisé au départ. Il y a l'ambitieuse dans le personnage de Chloé, joué par Louise Bourgoin, qui est plus âgée, qui en veut, qui veut être en réa absolument, qui se donne à fond. Il y a la petite jeune qui, elle, est un peu plus timorée, qui au départ a du mal avec les gestes, qui a peur, qui veut même partir. Il y a Hugo Wagner qui est le fils d'eux. Tout ça forme un peu un panel des médecins en devenir. De la même manière, les patients, je trouve, au départ, on peut craindre un peu le même type, d'autant qu'ils sont en médecine interne, donc dans le service le plus hétéroclite. Général, voilà, on peut tout avoir comme type de cas, tout type de personne, de l'homme transsexuel qui est en transition, au vieil alcoolique qui vient pour se faire prélever. Tout ça m'a un petit peu fait peur dans les deux premiers épisodes, et je continue à dire que je trouve que les premiers épisodes ne sont pas les plus réussis, qu'il y a un systématisme à l'œuvre qui est formel aussi, qu'on part d'une crise et qu'on arrive à une sorte de résolution par la solidarité qui parfois frise un peu, pour le coup, c'est pas très crédible, enfin je vais pas citer précisément parce que du coup sinon j'en donne trop, mais... la série vieillit très bien, et ça, pour le coup, c'est une vraie gageure, parce que c'est le plus difficile à faire. C'est-à-dire que ça s'affine. Les personnages s'affinent énormément. Et notamment, j'en cite juste un, qui est Hugo Wagner, donc qui est ce fils d'eux, entre guillemets, qui est sûrement le plus jeune, en tout cas, il fait extrêmement jeune. Une figure très poupine, et lui, c'est celui qui fait une bêtise dès le départ. Donc vraiment, pour le coup, c'est le plus en danger. Et qui me paraissait être le plus caricatural. J'avais aussi du mal avec l'acteur au départ, qui est Zachary Chassuriau, et qui s'avère être un personnage absolument passionnant. Je ne suis pas sûre comme vous, Olivier, que la série vieillisse bien. J'ai un peu peur. Mais en tout cas, lui, j'ai un peu confiance en lui. Je mise tout sur Hugo
Wagner.
Tout
sur Zachary, sur Hugo Wagner.
Voilà.
Et vous, Mathilde Wagman?
Moi, j'ai été très emballée, absolument passionnée par cette série, à tel point que je vais tâcher de ne pas être trop dithyrambique, parce que... voilà.
À ce point.
Ouais. Moi, voilà, ça m'a laissé complètement désemparée à la fin. J'étais vraiment triste que ce soit fini. Un peu comme à l'époque Urgence, et je trouve que la référence à Urgence, elle est très intéressante. Moi aussi, j'ai découvert l'univers des séries par Urgence, il y a quelques années de ça. Mais ce que je trouve passionnant ici, c'est que Thomas Lilti fait le choix d'explorer un service de médecine interne, vous l'avez dit, Lucille, et la médecine interne, c'est l'équivalent dans l'univers hospitalier, un peu de la médecine générale, c'est-à-dire c'est la médecine qui envisage le patient dans sa globalité. Et la série met en scène l'affrontement de ce service avec le service de réanimation, donc qui est un peu le modèle urgence. Et très précisément, là où je trouve la série forte et réussie, c'est sur tout ce qui concerne l'exercice quotidien de la médecine, son exercice laborieux, à l'opposé de des séquences de réanimation qui faisaient le cœur d'urgence. Il y en a aussi des séquences de réanimation, des séquences où il s'agit de ramener à la vie des patients au bord de la mort. Mais c'est pas, à mon sens, là où la série est la plus forte, là où elle est la plus forte, c'est dans toutes ces scènes, dont le nœud dramatique est autour de cette activité qui consiste à faire un diagnostic qui se fait par des outils qui sont aussi ceux du cinéma ou de la télévision, en l'occurrence, peu importe, à savoir l'observation, le regard, l'écoute. Et ça, toutes ces scènes dans lesquelles il s'agit pour le médecin d'observer, d'être à l'écoute d'un patient, et de trouver quelle est la nature de son mal, sont particulièrement réussies, notamment dans le fait que tout se joue dans un échange de regards. Il y a très peu de dialogue dans ces scènes-là, et c'est quand même une qualité de mise en scène assez exceptionnelle. Par ailleurs, ce qui est observé, c'est la description d'une institution en crise. Mmh. C'est la description de l'hôpital public par un emboîtement de crise, en fait, qui est vraiment une construction en béton armé et qui fonctionne très bien. La situation de crise de départ, cet isolement des chefs de service, mettant au fond en lumière la crise plus générale, qui est celle de l'hôpital, et est extrêmement bien décrite, cette espèce de quadrature du cercle, la façon dont on demande à l'hôpital public, en l'occurrence, de continuer à exercer sa mission avec des moyens toujours plus réduits, pour le dire vite, et avec quand même un brio dans la description des rapports de force entre les différents services, entre les différentes catégories de personnel, notamment cette espèce d'organisation pyramidale avec tout en haut le chef de service, juste en dessous les médecins internes, donc les jeunes médecins, encore en dessous la coordinatrice des infirmières, qui est l'un des personnages l'actrice, elle joue, j'avais oublié, mais elle joue en fait dans pas mal de films de Thomas Lilti, elle s'appelle Sylvie Lachat. Et moi, j'ai été voir, mais elle est vraiment comédienne, avec ce truc très enfantin, mais on se dit, c'est pas possible, c'est une vraie infirmière, elle incarne la chose avec une telle véracité. Voilà. Et encore en dessous, des infirmiers, les cuisines, les poubelles qui apparaissent aussi. Et voilà, toute cette structure-là, cette topographie-là de l'hôpital, dont il fait un ressort dramatique vraiment de manière assez brillante.
Bon, la scène des poubelles, c'est quand même pas la scène la meilleure qui soit de cette première saison d'Hippocrate.
C'est intéressant.
Tout de suite.
Oui, non, mais c'est vrai, quand même. C'est pas possible, cette scène-là. Comme, à propos de pyramide, il y a une, alors je sais pas quel est le titre, directrice administrative qui est interprétée par Géraldine Nakache, et ça non plus, ça fonctionne comme pas très bien, je trouve, dans la série, que par ailleurs j'ai aimé, quand même, ne me regardez pas avec ses yeux noirs, Olivier et Mathilde. Comme vous le savez, j'ai pas une passion pour le cinéma de Thomas Lilti. Première Année m'a profondément ennuyé, alors que là je trouve ça effectivement extrêmement bien construit, rythmé, assez original. Alors, j'ai fait le calcul, moi j'ai vu un seul épisode d'Urgence, donc il m'en reste 344 à voir. J'ai pas du tout de connaissances dans les séries médicales. J'avais vu l'épisode réalisé par Quentin Tarantino, comme tous ceux qui n'ont pas regardé Urgence, sauf celui-là. Mais c'est vrai que ce que j'aime, c'est cette volonté, ce que vous disiez, Mathilde, de montrer une réalité du travail. Moi, ce que j'aime bien, quel que soit le milieu professionnel d'ailleurs, j'aime bien qu'on voit comment les gens travaillent. Et donc là, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien rendu, à la fois dans la durée, dans la
difficulté, cette dimension, on va dire, politique, qui est toujours présente chez Lindsay, de dire, bon, l'hôpital public manque de moyens, manque de personnel, et je trouve qu'il le montre extrêmement bien, et je trouve ça très, très intelligent aussi d'avoir inséré le service dans le service, le F2M, ce service de transition sexuelle, où on voit surtout un patient hein, dans cette saison 1. Et je trouve que c'est une façon aussi là très concrète de dire c'est quoi une transition sexuelle, comment ça se passe, quelles sont les étapes. Et ça, je trouve que c'est une très belle chose. C'est montrer le réel, le moins glamour possible, mais le plus réel. Lucille Comeau ?
Oui, d'ailleurs, c'est ce personnage qui est aussi du coup un acteur et quand même la preuve que aussi tous les acteurs secondaires donc qui jouent les patients sont extrêmement bien servis, ce qui n'est pas le cas souvent des séries, notamment policières, où il y a beaucoup, je pense à Engrenage, on en parlait tout à l'heure hors antenne, Arnaud. C'est vrai qu'Engrenage, parfois, les personnages secondaires qui passent, ils sont un peu sacrifiés au profit des personnages principaux. Là, tous les personnages secondaires, qui sont du coup des patients pour la plupart, sont passionnants, et lui, il donne, à mon avis, la plus belle scène de la saison, qui est une scène d'adieu, je ne vais pas trop en dire, mais qui est, à mon avis, là où la série réussit, dans, en effet, la pudeur, le regard, comme le disait Mathilde, le pur geste médical et ce qui peut en suivre, c'est-à-dire très peu, en fait, de relations entre un patient et son médecin. Et après, je suis aussi d'accord, je trouve qu'il y a des choses très spectaculaires, notamment cette fameuse scène des poubelles qui ne correspond, à mon avis, à rien pour les auditeurs qui n'ont pas vu la série.
Mais
est un problème. Oui, voilà, on cherche quelque chose dans des poubelles, ça dure très longtemps, ce n'est absolument pas réaliste qu'une interne soit mobilisée pendant des heures à chercher quelque chose dans une poubelle. Je crois que la série sacrifie de temps en temps au spectaculaire, mais de fait, 8 épisodes pour dire autant, forcément, il y a des raccourcis.
On a des toutes petites réserves, tout petit commentaire encore.
Moi, j'aime beaucoup la souplesse de la série qu'elle passe d'un diagnostic social et politique sur l'hôpital public, évidemment. Des questions qui sont entre le social et le politique, c'est-à-dire la transition de genre de cet homme transgenre, et puis le saut, parce que toute la dernière partie de saison, au fond, est une forme de soap, c'est-à-dire que ça repose sur les personnages et sur les drames qui leur tout ce qui traverse, c'est quelque chose d'ultra classique. Mais il y a des idées vraiment géniales, je trouve. Enfin, franchement, le personnage de Karim Leclou, qui est un médecin
légiste qui s'occupait vient,
du coup, à sœur géniale de toute façon.
Oui, il est génial, l'émotion immédiate. Et donc, c'est de trouver ça, en fait, le ton juste à chaque fois. C'est quand même très impressionnant pour une première saison de série.
Dernier mot, très rapide, Mathilde Wagman.
Non, mais voilà, moi j'abonde dans tout ce qui a été dit et je pense que le sens de cette scène des poubelles, malgré tout, c'est vraiment, voilà, pour y revenir, c'est vraiment l'idée d'explorer la topographie de ce lieu et voilà, avec ses sous-sols, avec son organisation et ça, c'est vraiment très intéressant.
Hippocrate de Thomas Leltis sur Canal+, et j'imagine en DVD dans peu de temps, si ce n'est déjà fait.
Aquí, ando construyendo un imperio.
Who's that guy?
Miguel Felix Gallardo.
The Rockefeller of marijuana.
You gonna bust his ass?
Bon, une autre de vos passions, Lucille Comeau, pour le coup de cœur.
La drogue.
Narcos.
Narcos, oui.
C'est Mexico, saison 1.
Oui, c'est une série qui existe déjà depuis quelques années, diffusée sur Netflix, et qui, comme son nom l'indique, se glisse dans les méandres du trafic de stupéfiants en Amérique latine dans les années 80. Et le titre dit beaucoup de sa simplicité. Hein. C'est une série efficace, explicative, rythmée, avec une voix off, des archives parfois. En tout cas, une volonté de mettre au clair à la fois les réseaux de production et de vente de drogue et l'arsenal de dispositifs américains et locaux pour les stopper. Alors, les premières saisons étaient très liées à un pays, la Colombie, hein, et aussi à un protagoniste, Pablo Escobar. On peut dire que déjà, la série avait réussi l'exploit de se mettre à la hauteur du mythe, de dessiner un personnage fin et très convaincant. Bon, il y avait peu de suspense, on savait que Pablo, ça n'allait pas durer éternellement. Et la série avait déjà, je crois, réussi à rebondir avec le cartel de Cali, et tout l'enjeu de cette nouvelle saison était donc comment Narcos va se réinventer en sortant de Colombie, puisqu'il s'agit presque d'une nouvelle œuvre, une nouvelle nouvelle série, une nouvelle saison, Narcos à Mexico. Alors, rassurons les fans, on conserve quand même à peu près la même esthétique, ce même rythme très rapide, le même goût visuel pour les plans larges sur les villes latines, les campagnes, les villas extravagantes que les trafiquants achètent pour leurs associés et leurs familles. Cette même voix off qui revient, qui explique, bon, parfois en simplifiant les rapports entre forces présentes. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'un nouveau maître du jeu, Félix Gallardo, ancien flic qui devient maître de la production de marijuana, puis qui devient gourmand et à ses risques et périls décide de diversifier ses propositions, on va dire ça comme ça, et se retrouve à faire face à la DEA, donc la brigade américaine naissante, sous les traits d'un policier particulièrement pugnace qui s'appelle Kiki Camarena, qui a existé aussi lui. Alors c'est une saison un peu plus sèche que les précédentes, ce qui est à la fois un peu une source potentiel de déception et en même temps qui renouvelle assez heureusement, je crois, la série. Félix est un personnage nettement moins flamboyant que Pablo, c'est un pragmatique nerveux. Le flic qu'il affronte au fond est à peu près du même acabit. Il y a donc beaucoup moins de brillants, moins de bling-bling que dans les saisons précédentes. Il y a toujours cette violence. Elle paraît plus dramatique et moins baroque qu'en Colombie. C'est parce qu'il y a quelque chose de profondément, je crois, désespéré dans ce monde-là, dans le Mexique des années 80. On voit que la gangrène de la corruption a complètement pris le corps de l'État, ce qui n'était pas totalement le cas encore en Colombie. Par exemple, les entrevues entre la police, donc la DEA, et toutes les diverses institutions auxquelles elle fait face, mexicaines, mais aussi en fait à l'ambassade américaine, sont particulièrement vaines et déprimantes dans cette saison-là. Et puis ce Félix incarne aussi, même si son économie est parallèle, une course mortifère de l'entreprise familiale à un capitalisme débridé, on sent qu'il ne maîtrise plus du tout, qui à cette époque-là, en Amérique latine, clairement, ne concerne pas que lui. Et donc, même si dans le fond, la saison est probablement un peu plus simpliste, je pense que les précédentes, de ce point de vue, elle acquiert à ce prix une efficacité politique que je trouve assez sidérante et c'est probablement une raison en soi de la regarder.
Et puis, quand on voit le final de cette saison, on a hâte de voir la suivante. Narcos Mexico, c'est sur Netflix.
France Culture, la dispute. Arne Laporte. Get the right.
Et la dernière série à notre affiche ce soir, c'est Escape at Dannemora de Michael Tulklin et Brett Johnson sur Canal Plus série depuis quelques semaines et sera en janvier sur Canal Plus, une série dont Ben Stiller est l'un des producteurs, réalisateurs, alors de plusieurs ou tous les épisodes, que je ne les ai pas tous vus pour l'instant. En tout cas, l'action se situe dans une immense prison de l'État de New York.
So you're a 51-year-old woman who's been with the same man for 20 years, 21 years? So we can have an adult conversation.
Okay.
Did you have sex with these two inmates?
No.
I just figured you're friends with my friend. That makes us friends.
What's going on with you and Tilly?
Maybe we can arrange a get-together soon.
I'm down there every night. I'm cutting the pipe. I'm doing the work. And all you do is sleep.
Nobody knows about a marriage, except the people in the marriage, and sometimes even they don't know.
So you want to be part of my dream?
Yes.
Say it.
I want to be a part of your dream.
Escape at Dannemora, Lucille Como, j'ai pas dit grand-chose, vous pouvez développer.
Oui, alors donc cette prison de Dannemora est en effet une immense prison dans le nord des États-Unis. Là, en fait, la série prend pour point de départ un fait divers réel qu'on connaît. Et d'ailleurs, je ne dévoile rien puisque la série est un immense flashback. Et on imagine dès le départ,
vu le titre,
voilà, qu'ils ont réussi à
escape
bon. À s'enfuir. Ces deux fameux prisonniers qui ont réussi donc à s'enfuir de cette prison avec l'aide conséquente d'une employée de la prison qu'ils ont séduite tous les deux, l'un après l'autre, même si elle était quand même un peu plus amoureuse d'un. En tout cas, c'est l'histoire de la série. C'est une grosse série. Je sais pas trop si ça veut dire quelque chose, mais pour moi, ça veut dire quelque chose.
Ouais.
Il y a tout un gros arsenal de la série de prison qui est
vous
encore une fois.
C'est gros, de toute façon, oui. Comme moi. Il y a des gros acteurs aussi, vous n'avez pas dit.
Oui, il y a des gros acteurs, en effet, je vais y revenir. Mais en tout cas, c'est un objet conséquent avec un gros arsenal de réalisation et de décors. Une prison qui est une ville, on la voit beaucoup dans la série, qui s'étend sur un territoire immense. On est beaucoup en extérieur, paradoxalement, dans cette prison, puisqu'il y a des allées, des couloirs dans l'air extérieur à traverser pour se rendre d'un lieu à l'autre, et notamment des cellules qu'on voit finalement assez peu à cet atelier de couture où travaillent au départ les deux prisonniers concernés et sous la supervision donc de Tilly, qui est l'employé qui va les aider. Et puis il y a aussi beaucoup d'extérieur dans cette série de prisons, et ça c'est pour le coup moins commun, puisque Tilly est probablement le personnage le plus intéressant et le personnage principal de la série, et qu'elle, on la voit beaucoup dans son quotidien, dans cette ville, qui est aussi une ville de Dan et Mora, dont on soupçonne qu'elle fonctionne énormément en lien avec la prison, et qui est une sorte de Madame Bovary white trash, qui s'ennuie profondément avec son mari, qui travaille lui aussi à la prison, et qui donc se prend d'amour, on ne sait pas, mais en tout cas d'une excitation dont on sent qu'elle est vitale pour elle, et c'est très bien fait, et qu'elle va donc essayer de faire sortir ces deux personnes. Et finalement, celle qui doit s'échapper, c'est elle. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ça. C'est de voir ce personnage de femme qui est donc joué par Patricia Arquette, qui c'est un rôle à Oscar, hein, c'est pour ça que c'est aussi un peu une grosse série. Elle a pris 20 kilos, elle a un dentier. Moi, je ne l'ai pas reconnue hein, au départ. Je ne l'ai même pas reconnue à la fin du premier épisode. Je me disais, mais en fait, elle est où, Patricia Arquette? On ne la voit pas dans le premier épisode. Bon, c'est elle. Et elle a un rôle qui est extrêmement convaincant. Moi, je pense que si je continue à regarder la série, c'est parce qu'elle est là et qu'elle est un personnage absolument bouleversant. Je veux juste dire une chose, moi qui suis obsédée par les scènes de sexe dans les films et dans les séries, je trouve que les scènes de sexe dans cette série, entre elle et du coup les deux, donc à la fois Benicio del Toro et Paul Dano, qui sont les deux personnages masculins auxquels elle a affaire, sont particulièrement réussies. Et je pense que c'est là que réside l'attention de la série.
Donc je récapitule, sexe et drogue hein, pour Lucille Como. Mathilde Wagman.
Oui, non, je suis très surprise. parce que, du coup, je vais rebondir sur ces scènes de sexe qui, pour moi, sont particulièrement, non pas ratées, mais dans lesquelles se joue le nœud du ratage, pour moi, de la série. Ces scènes sont absolument sordides et ne font, d'une certaine manière, qu'appuyer ce qui est dit d'emblée sur ce personnage, qui est en effet, là, je vous rejoins, Lucille, le personnage de Tilly le plus intéressant, mais ne font qu'appuyer cette chose qui est qu'on nous explique bien que si cette femme s'est laissée séduire et en est venue à apporter son aide à ses prisonniers, c'est parce qu'enfin elle avait le sentiment de se sentir regardée. C'est même dit dans une réplique de manière extrêmement lourde dans l'une de ses scènes de sexe. Mon mari ne m'a jamais regardée comme ça. On ne peut pas faire plus cliché qu'une réplique comme ça. Bon, et elles sont sordides. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucune tension sexuelle, il n'y a aucun désir. Je ne sens pas de désir, le désir de cette femme pour Benicio del Toro ou pour Paul Dano. Ni dans l'autre sens. Bon, et pour moi, la série regarde ce personnage de Tilly et avec mépris, avec condescendance, et le condamne, notamment dans un épisode qui intervient assez tard, l'avant-dernier épisode de la série, donc je ne veux pas trop en raconter le contenu, mais qui ne fait qu'appuyer la condamnation de ce personnage qui se révèle, au fond, être un monstre. Pourquoi pas un monstre? C'est passionnant, un monstre. Mais elle est un monstre extrêmement peu complexe. Et les relations qui sont tissées entre ces trois personnages sont extrêmement peu complexes. Alors qu'on avait là un matériau en or. Enfin, vous l'avez dit, c'est une histoire vraie, c'est une histoire... fait partie de ces histoires, de ces faits divers. Si on ne nous disait pas que ça s'était vraiment arrivé, on ne pourrait pas y croire. Enfin, ces deux hommes se sont en effet échappés de cette prison de haute sécurité, hein, qui est l'un des centres pénitentiaires les plus importants des États-Unis. Enfin, voilà. Et par ailleurs, donc, j'ai dit ce que je pensais de cette relation, juste un mot sur le fait que l'évasion en elle-même, qui est un sujet très classique de cinéma et de série, et à mon sens, on passe complètement à côté du plaisir qu'on pourrait prendre à les voir préparer cette évasion, parce qu'il y a plein d'effets d'accélération qui rendent l'évasion facile. Et donc, bah, évidemment, si c'est facile, ça n'a que peu d'intérêt.
Il faudrait vraiment le bonus pour la caméra sur les îles Como, parce que si vous voyez les têtes qu'elle fait... Mais avant de répondre à quelques-unes de ces assertions et commentaires de Mathilde, on n'a pas entendu Olivier Joyard.
Bah, revenons au sexe quand même. Parce que c'est...
Ou à la drogue,
je trouve ça ce soir. Bon, je vais commencer
ça
par
va
le
ensemble,
sexe.
Enfin,
rock'n'roll.
Mais c'est intéressant quand même que parmi les trois personnages principaux, c'est celui qui n'est pas emprisonné, qui manque de sexe, en tout cas dans sa vie. Et c'est une femme qui a envie de jouir. C'est quand même ça, pour moi, comme ça que je la vois... C'est comme ça que sont filmées les scènes de sexe. Et évidemment, ça lui coûte beaucoup et elle est utilisée. Et il y a quelque chose d'extrêmement violent dans la façon dont ces scènes sont filmées, qui moi m'a plutôt intéressé et plutôt tenu en fait sur la longueur, parce que par ailleurs, j'ai envie de dire, faites-en un film. Enfin, c'est vraiment le truc. Habituellement, je suis extrêmement client des récits d'évasion. Enfin, je trouve ça vraiment palpitant. Et j'avais même regardé Prison Break au-delà de sa première saison à l'époque, je me souviens. Ce qui n'était pas si facile.
C'est super, Prison Break.
Ouais, pas tout le temps quand même, non?
Les deux
à partir du moment où la reine et oui, voilà. À partir du moment où l'enfermement n'est plus la règle, ça n'a quand même plus grand intérêt. Mais donc là, c'est une mini-série, hein, je crois. C'est-à-dire qu'elle se termine, elle est bouclée. Ouais. Et ça. C'est j'aurais même aimé que ce soit un peu plus court. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je trouve que Ben Stiller se regarde beaucoup filmé. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement une sorte de classicisme un peu balourd, très années 2000 dans le, enfin je dis ça, c'est il veut pas faire tape à l'œil, mais au fond c'est ce qu'il fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez malhonnête dans la façon dont il met en scène tout ça, je trouve. Hein. Par contre, il y a deux trois moments que je trouve vraiment beaux et qui justifient la durée. C'est-à-dire que je crois que c'est l'épisode 5 que moi j'ai vraiment vraiment bien aimé. Et la fin de l'épisode précédent.
Là, alors attention, comme les spectateurs.
Ou disons qu'il y a
le
temps que ça prend de réussir ou pas à s'échapper, en tout cas de franchir des obstacles, est vraiment pris. Il y a quelque chose qui est assez fascinant tout d'un coup, quoi. C'est-à-dire que le moment de la libération n'est pas forcément le plus jouissif et rapide. Donc ça parle beaucoup de ça quand même, cette série. Comment on se libère.
Bon, Lucille Como, vous brûlez tellement de répondre que je vous cède la parole.
Non, mais en effet, la frustration est à mon avis un sujet. Et là, pour le coup, c'est pour répondre à Mathilde de deux points de vue. C'est-à-dire que sur la forme du film d'escape, donc de fuite, je trouve pas le mot en français. Voilà, d'évasion. En effet, c'est très frustrant. Parce que c'est filmé, et je suis d'accord avec vous, la réalisation, elle est assez pataude de la plupart du temps. Mais il y a un truc qui est réussi, c'est qu'on ne voit jamais de plan large sur cette prison et on ne comprend rien. Ah, comment ils vont arriver de tel tunnel à tel égout. Enfin, moi qui suis nulle en orientation, je comprenais absolument rien à où ils étaient au moment où ils commencent à creuser, enfin, à essayer de trouver un chemin. Et ça, je trouve ça bien fait parce que je crois pas que ce soit le sujet précisément du film. Et c'est en effet pas Prison Break, c'est pas une série où on a des plans larges en accéléré sur toute l'entièreté de la prison et comment on va arriver d'un point A à un point B. Et le fait que ce soit aussi artisanal, aussi simple, qu'il s'agisse juste d'un tunnel avec des scènes extrêmement claustrophobiques et non pas de plans d'ensemble pour qu'on se rende compte de vraiment à quel point c'est un exploit de s'échapper de cette prison, je trouve ça plutôt bien fait. Et je reviens aux scènes de sexe du coup, parce que je trouve aussi, enfin moi pour le coup je les trouve très excitantes les scènes, je trouve que elle, son excitation on la perçoit et qu'il y a une vraie tension dans le désir féminin et de la manière dont il est représenté. Et je suis pas du tout d'accord avec vous Mathilde, parce que elle n'est pas monstrueuse, elle n'est pas non plus utilisée par les personnages masculins. C'est très ambigu dans les scènes d'intimité, la manière dont le rapport de force circule. Il y a un moment donné où le personnage incarné par Paul Dano s'effondre pendant l'acte dans ses bras en pleurant, qui laisse entendre que lui-même n'est pas dans un rapport de pure utilisation du personnage de Tilly. Et de la même manière, je ne suis pas sûre que la série utilise tant que ça Tilly et qu'elle en fasse un tel objet monstrueux. Je pense que ce personnage existe vraiment dans une ambiguïté, dans une complexité. Je la trouve pas du tout monstrueuse, moi, par exemple. Pas du tout.
Bon, je peux pas rentrer complètement dans le détail de ce qui, pour moi, achève de la condamner comme monstre, qui est donc cet épisode qui intervient assez tard. Je suis assez d'accord avec vous, peut-être sur les scènes avec Paul Dano, où effectivement, il y a quelque chose d'un peu plus subtil. Mais en revanche, dans les scènes avec Benicio del Toro, enfin, qui la manipule littéralement et s'est présenté comme tel et s'est montré comme tel, alors là, vraiment, moi,
ça, c'est le personnage, en effet, parce qu'au départ, oui, c'est quand même elle qui convoque, quand elle a envie, c'est elle qui convoque le détenu. Dans l'arrière.
Oui, absolument, avec Paul Dano. Mais par contre, pour ce qui est de sa relation, la situation.
Le manipulateur, c'est
s'inverse. Il y a des éléments, vraiment qui relèvent d'une sexualité sordide qui n'est pas intéressante. Bon,
je trouve pas ça sordide, moi. Mais
c'est pas du tout excitant par ailleurs.
Juste pour bref. Tout. Ni sordide, ni excitant, mais alors quoi?
Du désir, quoi. Il y a une circulation de désir et pour le coup, on le voit.
Ouais.
Non.
Mais, absolument. Mais moi, je voulais juste, moi, trouver juste, je trouve simplement que le Benicio del Toro incarne un peu ce qui moi va pas dans la,
oui,
la
oui.
série.
Ouais. On est d'accord.
C'est un moumout Berlusconi. Enfin, ouais. Je les confonds. Enfin, j'avais l'impression
son
que
doit être très gras.
C'était une sorte de
et puis,
biopic.
Il surjoue. Enfin,
oui, oui. Le cure-dent à la bouche.
Il y a libre cours à des effets de regard, de jeux qui sont vraiment.
Mais finalement, la série est un peu dans
Paul Dano, il est assez passionnant.
Paul Dano, il vient de faire un film en plus dont je me souviens plus du titre, mais qui est pas mal.
Wildlife. Après Richard Ford, on en parle bientôt dans la dispute. Bon, là nous parlions, vous n'êtes pas d'accord,
si.
Ça va se poursuivre dehors.
Non.
Bah si, Escape at Dannemora de Michael Tulklin et Brett Johnson. C'est pour l'instant sur Canal Plus série et bientôt sur Canal Plus tout court. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion, qui nous a rejoint comme chaque soir. D'abord, pour nous donner nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Sarah.
La question était: quel célèbre compositeur a dirigé en son temps l'actuel Gaîté Lyrique? Et la réponse est Jacques Offenbach.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le spectacle Franchir, la nuit de Rachid Oumradnan. Ce sont des places à gagner pour mardi, 18 décembre à 20h30. C'est au Théâtre National de Chaillot, dans le cadre du cycle Tous Humains. Quelle est la question, Sarah?
Dans quel style de danse s'illustre le chorégraphe Rachid Oumradnan?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales, à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et aussi très simplement vous abonner au podcast. Nous nous retrouvons lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. En compagnie de Caroline Châtelet, Marie-Josée Sirache et René Solis, à notre affiche Joueur, Mao 2, Les Noms d'après Don DeLillo, mise en scène Julien Gosselin, en ce moment à l'Odéon et puis en tournée. Il nous faut arracher la joie aux jours qui viennent d'après Hamlet. C'est le nouveau spectacle de Benjamin Poré, en ce moment à l'affiche des Gémeaux Assaut. Love, Love, Love de Mike Bartlett, mise en scène Nora Granovski au Théâtre de Belleville. Et puis un coup de cœur de René Solis qui donnera un hommage à Jean-Loup Rivière.